Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce samedi dans À voix haute, j'ai le plaisir de partager avec vous les premières pages du dernier roman de Marie-Hélène Lafon, Les Sources, paru chez Buchet-Chastel en 2023. Il dort sur le banc. Elle ne bouge pas. Son corps est vissé sur la chaise. Les filles et Gilles sont dans la cour. Ils sont sortis aussitôt après avoir mangé. Ils savent qu'il ne faut pas faire de bruit quand il dort sur le banc. Claire a refermé derrière elle les deux portes, celle de la cuisine et celle du couloir. La table n'est pas débarrassée. Elle s'en occupera plus tard, quand il aura fini la sieste. Une lessive sèche dans le jardin. Nicole l'a écartée sur le fil avant de partir. Il faudra ramasser tout le linge, repasser, ranger, préparer les vêtements des enfants pour demain matin, les leurs aussi, et cirer les chaussures. Elle est contente de descendre chez ses parents. Elle voudrait être contente. On sera chez elle, de son côté. On pourra rire et parler fort. Il n'aura pas le dessus. Chez elle, il n'a pas le dessus. Il mange et il se tait. Dans 3 semaines, le 30 juin, elle aura 30 ans. 30 ans, 3 enfants, Isabelle, Claire et Gilles, 2 filles et un garçon, 7, 5 et 4 ans, une ferme, une belle ferme, 33 hectares, une grande maison, 27 vaches, un tracteur, un vacher, un commis, une bonne, une voiture, le permis de conduire. Heureusement, elle a le permis de conduire. Sa mère a eu raison d'insister pour qu'elle le passe. Isabelle, Claire, Gilles. Les 3 prénoms reviennent toujours dans ces listes. 3 enfants, 3 prénoms, 33 hectares, 30 ans. Elle s'accroche à ces listes. Isabelle et Claire sont sur les balançoires. Gilles les regarde. Il est assis sur le mur, les bras croisés sur la poitrine. Il tend ses jambes nues en imitant la cadence de ses sœurs qui cherchent à se donner de l'élan. Elle n'aura pas d'autre enfant, il sera le dernier. Elle aime le tenir contre elle, le garder, il est doux, il sent le sucre chaud et le bébé encore. Il rit quand il se réveille, il est joyeux le matin quand ils sont seuls dans la chambre, elle et lui. Les filles s'échappent déjà, elle le sent. Elles courent, elles sautent, elles sont sérieuses, elles se taisent. Isabelle est entrée à l'école. Le ramassage scolaire passe au bout du chemin, le matin et le soir. La maîtresse dit qu'elle apprend bien. Elle fait ses devoirs sur la table de la cuisine et on n'a pas besoin de surveiller. Claire entrera au cours préparatoire dans un peu plus d'un an. Elle pense à sa mère et à ses tantes qui disent toujours que ça passe vite, la vie, le temps. Les années de jeunesse où on a les enfants petits avec soi dans les maisons. Elle commence à le comprendre. Elle déglutit dans le silence de la sieste. Elle appuie son menton sur ses mains et ses coudes sur la toile cirée, de part et d'autre de son assiette. Elle déglutit encore. Bientôt 8 années depuis son mariage. Elle compte, dans 6 mois et 17 jours, ils se sont mariés le 30 décembre 1959. Elle n'aime pas penser à ça. Il ne faut pas. 8 ans de mariage et 4 ans à la ferme, ici, loin de tout, au bout du monde. Elle voudrait se lever, sortir, aller ramasser la lessive, faire ce qu'il faut, prendre un peu d'avance avant la grande toilette des enfants, la toilette du samedi, qui est plus longue quand on descend le lendemain chez les grands-parents. Chez elle et chez lui, il faut que les 3 soient impeccables toujours. Son corps pèse, elle attend. Nicole a 16 ans, bientôt 17. Avant elle, pendant plus de 3 ans, il y avait eu Annie, sa première bonne. Annie était si gentille, si vive et joyeuse, gaie, du matin au soir. On voyait qu'elle avait l'habitude du travail. Les lessives pour une famille de 5 personnes, sans compter le linge des 2 ouvriers, le ménage d'une grande maison, les poules et les lapins, l'entretien du jardin, arrosé, sarclé, rien ne lui faisait peur. Elle était née dans le pays et n'en était jamais partie. Ses parents tenaient une petite ferme sur les hauts de la commune et son père allait aussi en journée dans la vallée pour joindre les deux bouts. Annie connaissait les gens, les familles, les histoires et en parlait bien, sans malice mais toujours avec le mot pour rire. Annie avait eu 20 ans, s'était mariée et avait suivi son mari qui ouvrait un garage à Mauriac, à l'autre bout du département. Les femmes suivaient les maris. Nicole suivra le sien. Nicole aura un mari, même si elle est moins jolie qu'Annie, moins pimpante et plus lente, plus lourde. On s'habitue à tout. Elle s'est habituée à Nicole qui manque parfois un peu d'idées, mais travaille très bien. Nicole vient aussi d'une ferme. Elle est l'aînée d'une famille nombreuse et on sent qu'elle a été élevée à la dure. Elle n'a pas été élevée à la dure, elle. Il ne faut pas penser à ça non plus. Elle en a les jambes coupées, chaque fois. Mais elle ne peut pas s'empêcher de ruminer ses rengaines de petite fille. Même si on n'était pas riche, on ne manquait de rien. Et pendant que le père était prisonnier en Allemagne, sa mère avait mené la barque, toute seule, avec les 4 grands-parents qui ne savaient pas quoi faire pour la gâter, elle, la petite, la princesse, la reine. À Fridière, elle passait d'une maison à l'autre, les fermes se touchaient, les parents s'étaient toujours connus. Elle avait eu 4, 6, 7 ans, et le père ne revenait pas. On en parlait, on envoyait des colis. Quand elle avait su écrire, elle avait tracé des mots que lui dictaient sa mère et sa grand-mère au bas de la lettre pour le prisonnier. Elle s'était appliquée, mais elle se souvient d'avoir pensé, sans le dire, que ça ne lui plaisait pas d'avoir un papa prisonnier. Les deux mots n'allaient pas ensemble. Ensuite, il était revenu. Il avait l'air vieux et fatigué. Elle n'avait pas reconnu l'homme qui était sur la photo de mariage et, au bout de quelques jours, elle avait demandé à sa mère si le monsieur n'allait pas bientôt repartir. Elle enfonce son menton dans ses mains et ses orteils remuent sous la table dans ses pantoufles bleues. Elle ferme les yeux. Elle dormait avec sa mère. Jusqu'au retour du prisonnier, elle avait dormi avec sa mère dans le grand lit, dans son chaud, collée contre le dos de sa mère, le nez dans les cheveux dénoués de sa mère, emmêlée à elle. Ensuite, après le retour, jamais plus, jamais. Une boule monte dans sa gorge, il ne faut pas, elle voudrait s'empêcher, elle doit garder des forces pour tout faire, sinon ce sera encore le cirque, la corrida. Elle a des mots maintenant, pas beaucoup, 2 ou 3, ça suffit. Depuis toutes ces années, elle a trouvé des mots pour se parler à elle, dans sa peau, de ce qui lui arrive, de ce qui est arrivé dès le début, aussitôt après le mariage. Elle ne dit ces mots à personne, comment les dire? Il faut faire semblant devant les gens, tous les autres sont les gens, même sa mère, son père et ses sœurs. Ses sœurs savent. Elles ont senti, elles ont compris, elles ont vu une fois, après la naissance de Gilles, où il n'a pas pu se tenir devant elles. Depuis, elles ne sont pas revenues à la ferme, passer quelques jours, comme elles le faisaient quand les filles étaient plus petites. Mais elle ne sait pas si ses sœurs ont parlé à sa mère de ce qu'elles avaient vu. Sa mère ne lui a rien dit. Et elle non plus. Les mots ne lui viennent pas. L'orgueil les bloque. Elle appelle ça l'orgueil. ce qui l'a fait tenir et rester, et qui compte aussi pour sa mère. Elle le sait. Elle connaît sa mère mieux que personne, mieux que ses sœurs et que son père. C'est à cause des années de la guerre, de l'odeur des cheveux de sa mère quand elles étaient dans le chaud du lit, les deux. Elle relève le menton, ouvre les yeux et enfonce ses doigts dans la chair de ses pommettes. Elles allaient aussi au cimetière le dimanche après la messe. Les deux grands-mères, la maternelle et la paternelle, la mémé et la mamie, les suivaient d'un peu loin, restaient en arrière. Sa main gauche était dans la main droite de sa mère. Elle se tenait debout devant la tombe, ça ne durait pas longtemps. Sa mère ne disait rien et serrait seulement sa main un peu plus fort dans la sienne qui devenait moite. Ensuite, c'était fini. Elle sortait du cimetière. Plus tard, quand elle était allée à l'école du bourg, elle avait pu lire sur la tombe « André, 1935-1937 ». Il remue un peu sur le banc. Il bouge son bras gauche qui est replié sur ses yeux à cause de la lumière. Il a laissé ses lunettes sur la table, à côté de son couteau fermé, et il dort comme ça, allongé sur le banc étroit, la jambe gauche posée sur la droite, les pieds croisés. Elle connaît ses heures, il va dormir encore 10 minutes. Il sera réveillé et levé d'un coup. Il mettra d'abord ses lunettes, il prendra son couteau et il lui demandera sans la regarder ce qu'elle attend pour ramasser la table. Il ne supporte pas le moindre bruit pendant sa sieste. Elle ne répondra pas. La boule durcit dans sa gorge. Elle a l'orgueil comme sa mère. C'est une façon d'être, même si ça n'explique pas tout. Sa mère aurait pu empêcher le mariage en insistant beaucoup. Elle ne l'avait pas fait. Son père lui avait parlé une fois, un soir du dernier été qu'elle avait passé chez ses parents, en 1959. Il revenait du préron, lui avec la faux, elle avec le râteau. C'était un petit pré en pente, tout biscornu, enfoncé sous des frênes qui arrêtaient le soleil. Le père avait fauché, elle avait rattelé derrière lui le foin qui n'était pas haut et tout clairsemé, mais qu'il fallait quand même déplacer pour qu'il échappe à l'ombre des frênes et sèche mieux. Elle aimait bien travailler avec le père. Il était calme et doux. Après le dernier tournant en haut de la côte, il s'était arrêté. De là, on voyait tout. Fridière d'abord, et en face, de l'autre côté du ruisseau, le Raisonnais, la ferme de Soulages qui avait fière allure, les deux bâtiments, les prés, les bêtes, et la grosse maison où elle irait habiter après son mariage, dans moins de 6 mois, on avait fixé la date, le 30 décembre. Pierre travaillerait avec son père, comme il le faisait déjà avant le service militaire. Il allait rentrer dans 9 semaines. Il le confirmait dans sa dernière lettre, fin septembre ou début octobre. Le père s'était tourné vers elle. Il avait dit « C'est une belle ferme, tu seras pas loin à Soulages, mais j'aime pas ton fiancé. J'aime pas comment il te regarde. »
Aimer c'est être aimé, amour n'est pas querelle. Renforce-moi le cœur de couleurs immortelles. Si tout est vanité de ta flamme éternelle, presse ma vanité, garde-moi le premier. Si jeune d'aventure au grand gouffre marin, quelle mer en ma vieillesse tout à l'écart me tient. Que j'eusse aimé l'automne, l'automne ou bien l'hiver, quelque part où que j'aille, partout la chose amère. Du tout. troupeaux, la génisse dans ta fougère dorée, la beauté du visage qui se hâte d'aller, que je meure un instant si la chose interne. La saison est passée, ne cherche pas querelle. Que veux-tu déchirer au compte de maison? Que je perde courage, que je meure en t'aimant. Qu'ai-je fait pour mourir en ce lieu? Sur le sentier vulgaire où pleurent les amoureux. S'échappe dans les nuits. La bête est dangereuse dans son plus grand besoin. Il me faudrait le cœur d'un magicien. Jamais un cœur ne change, il faut monter plus haut. Sur cette étrange terre parmi les animaux. Aimer c'est être aimé, amour n'est pas querelle. Renforce-moi le cœur de couleurs immortelles.
À voix haute, Meredith Ledez.
La cour est verte. Isabelle est montée dans l'érable. Elle grimpe presque jusqu'en haut et y reste longtemps. On voit ses pieds quand on s'avance sous l'arbre, contre le tronc. On devine qu'elle est là, mais elle ne répond pas si on l'appelle. Elle ne sait pas bien comment s'y prendre avec Isabelle qui est l'aînée. Comprend tout, lui résiste, à elle, et se méfie de son père. Claire et Gilles sont accroupis devant les clapiers et parlent au lapin. Depuis le pas de la porte, elle les voit de dos. La lumière joue sur leurs cheveux châtains, avec des reflets dorés bouclés pour Claire, souples pour Gilles. Ils ne sont pas blonds, elle n'aura pas eu d'enfant blond. Isabelle est frisée comme son père et presque brune. C'est Claire qui parle au lapin. Gilles écoute et tourne la tête, tantôt vers sa sœur, tantôt vers les lapins, comme si les lapins répondaient. Elle lui demandera si les lapins répondent quand Claire leur parle. Il lui racontera en gazouillant avant de s'endormir quand elle le couchera. Son petit lit à barreaux est dans la chambre du bas, à côté de la leur. Elle aime rester longtemps sur la chaise basse. Elle appuie son épaule sur les barreaux du lit peint en jaune qui vient de chez elle. Elle a dormi dans ce lit avant le départ du père pour la guerre. Elle n'a jamais demandé à sa mère si elle avait eu le temps de l'utiliser pour André. Elle ne peut pas poser ces questions à sa mère. Ses sœurs, l'une après l'autre, ont dormi dans ce lit à barreaux et il reprendra du service quand elles auront des enfants. Ses sœurs fréquentent, elles ont 20 ans, elles vivent leur vie. Ses sœurs ne peuvent rien pour elles. Isabelle et Claire dorment déjà en haut, ensemble, dans un grand lit neuf. Le soleil de juin écrase la cour qu'il faut traverser pour aller au jardin chercher le linge propre. Elle a pris la corbeille, elle la sent contre sa hanche, son corps avance, les enfants ne se retournent pas. La cour est vide. À cette heure, les poules sont dans le pré, derrière la maison, et les chiens sont descendus à l'étable, avec lui. Ils le suivent quand il se lève de la sieste. Ils lui obéissent. Ils filent. Quand elle voit revenir les chiens qui restent dans la cour et n'entrent pas dans la maison, quand les chiens passent devant le portail du jardin ou se couchent derrière l'érable, elle sait qu'il n'est pas loin. Le linge est sec et il sent bon. Les robes des filles pour demain, leurs deux gilets blancs et les petites affaires de Gilles à repasser. Les chaussettes, les culottes et les tricots de corps des enfants, deux combinaisons à elle, un chemisier, une jupe, à repasser aussi. Nicole ne mélange pas le linge quand elle le suspend. Les vêtements des enfants d'un côté, ceux des adultes de l'autre. Elle a ses manières de faire. Elle travaille lentement avec beaucoup de soin. Quand elle arrose le jardin le soir, elle se penche. Elle regarde de près comment l'eau se répartit au pied de la plante. Elle n'en met pas trop. Et elle prépare les arrosoirs longtemps à l'avance pour que l'eau ne reste pas glacée comme elle l'est au sortir du robinet de la laiterie. Elle fait comme sa grand-mère et elle dit que le jardin de sa grand-mère est le plus beau de toute la commune. Isabelle aime arroser avec elle. Elle s'applique. De la cuisine, on les voit aller et venir. Heureusement que Nicole est là. C'est bien d'avoir une bonne, de pouvoir la payer. Il n'y en a pas dans toutes les fermes. À Fridières, chez elle, de son côté, personne n'en a jamais eu. Mais ni elle ni ses sœurs n'ont dû aller travailler chez les autres, se placer chez les autres. À Soulages, chez ses beaux-parents, c'est un gros train de maison, avec 6 domestiques à table tous les jours, matin, midi et soir, en plus des gens de la famille, et sa belle-mère a la même bonne depuis 20 ans, Yvonne, qui a un travail fou, plus une ou deux femmes, toujours les mêmes, que l'on prend à la journée plusieurs fois par an quand c'est nécessaire. Chez eux, on sait faire rentrer l'argent. Il faut leur reconnaître ça. Ils ont été les premiers du pays à avoir un tracteur, une voiture, la télévision. La corbeille à linge est presque pleine. Elle se tient dans l'allée du jardin et secoue la tête pour ne pas penser à ses 6 premiers mois de son mariage, de janvier à juin 1960, où elle habitait Soulages. Elle se souvient et ça cogne de tous les côtés. Elle a été enceinte tout de suite. Isabelle est née le 30 novembre 1960, 11 mois jour pour jour après leur mariage. Les deux combinaisons, le chemisier, la jupe, elle les dépose sur le dessus de la corbeille. Elle ne reconnaît pas son corps que les 3 enfants ont traversé. Elle ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle est perdue dans les replis de son ventre couturé, haché par les cicatrices des 3 césariennes. Ses bras, ses cuisses, ses mollets et le reste. Saccagé. Son premier corps, le vrai, celui d'avant, est caché là-dedans, terré, tapis. Il dit « Tu ressembles plus à rien. » Il dit « Tu pues, ça pue. » Et il s'enfonce. Pour se calmer et tenir, il faut faire. Faire des choses. Elle a appris ça. Travailler, réciter des listes, penser à d'autres personnes, se raconter les histoires des gens en dehors de la famille et profiter des occasions. Elle appelle occasion les accalmies. Il y en a et certaines sont assez prévisibles. Cet après-midi, par exemple, elle sera seule jusque vers 5 heures. Il ne devrait pas remonter avant la fin de la traite. Le vacher a pris sa journée puisque demain dimanche, il fera tout le train seul avec le commis, Félix, qui, lui, ne s'en va jamais. Faire tout le train, donc la traite de l'après-midi et le fromage, le Saint-Nectaire. Le commis n'a plus de famille, sauf une sœur plus âgée qui vit à Chanterelle, à la limite du Puy-de-Dôme, et n'a sans doute pas très envie de le voir débarquer, surtout s'il a bu. Et quand Félix sort, il boit. À la ferme, il trouve le moyen, entre 2 repas, de téter sa chopine qu'il doit tirer au tonneau dans la cave et cacher ici ou là. Mais il a l'habitude et ça ne le gêne pas pour son travail. Au contraire, c'est son carburant. Il a besoin de sa ration de vin. Il est comme le tracteur, en moins gourmand. Il le dit lui-même et il rit. Et on voit qu'il lui manque plusieurs dents en haut et en bas. Félix a le vin gai. Il a 45 ans. Elle a lu sa date de naissance sur ses papiers au moment de l'embauche et l'a retenue. Un 30 août. Même jour et même mois que Claire, 40 ans plus tôt, exactement, en 1922. La date de naissance de Félix est même dans ses listes, avec celle d'Annie et de Nicole, et après celle de ses parents, de ses sœurs, de tous les oncles, tantes et cousins et cousines qu'elle connaît. Félix est abîmé. Il paraît largement 10 ans de plus que son âge et ne veut pas sortir de ses routines, surtout pas pour apprendre à conduire le tracteur. Il en a même un peu peur. Ça se voit à sa façon de se tenir encore à l'écart, le dos voûté, ramassé sur lui-même, quand le tracteur manœuvre dans la cour ou à l'entrée de l'étable. Pourtant, les machines, c'est l'avenir. Même son père le dit, qui n'aime pas beaucoup ça non plus. Elle estime bien Félix, il est gentil. Il se tient à sa place et n'ira pas répéter ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Félix a beaucoup vu et presque tout entendu. Il vit avec eux depuis le début, depuis qu'ils ont acheté la ferme. Ils ont signé en mars 1963, un jeudi, le 7, chez le notaire d'Allanche. Il tombait une pluie mêlée de neige, comme le jour du mariage, et ils avaient signé, comme le jour du mariage. Elle reste plantée dans l'allée du jardin, devant la corbeille pleine de linge sec et propre, dans la lumière verte de juin. Elle a signé. Elle pense à la ferme, qui est une belle ferme, et à la pluie mêlée de neige du jour de son mariage. Elle est rattrapée par cette pluie qui gâche tout son orgueil de propriétaire d'une belle ferme, avec un vacher, un commis et une bonne. Elle sait où sont les photos. Elle ne les a pas rangées dans l'album vert que la tante Jeanne leur a offert. Elle a tout glissé en vrac entre les premières pages de l'album et ça restera comme ça. Elle ne peut pas regarder ces photos. La première fois où ses sœurs sont venues à la ferme en juin 1963, elles ont demandé à les voir, mais elles n'ont pas recommencé. C'étaient des gamines pourtant, 15 et 16 ans, et elles se souvenaient bien du mariage. Elles ont d'abord ri de la moustache du père, de reconnaître les invités, et de se retrouver dans le cortège sur la place du bourg ou à la sortie de l'église sous les parapluies, avec leurs gros manteaux d'hiver et des chaussettes blanches de petite fille. Ensuite, elles ont cessé de rire. Elles lui ont rendu l'album, mais sont allées lever Isabelle qui était à la sieste, mais ne voulait plus dormir. En juin 1963, ses sœurs étaient restées 2 semaines, et Annie était arrivée tout de suite après leur départ, heureusement, pour l'aider dans la maison et s'occuper de Claire, qui était facile, mais n'avait pas encore 1 an. Ses sœurs étaient redescendues en emmenant Isabelle. Elle passerait l'été à Fridières jusqu'à la naissance, prévue fin juillet. Elle attendait Gilles. Elle avait mal dans le dos. Ses jambes étaient enflées. Sa cicatrice tirait. Elle n'avait plus de goût à rien. Elle aurait voulu pleurer et dormir tout le temps, et ne plus l'entendre, lui, ne plus le sentir, lui, qui tournait autour d'elle, surtout les nuits dans le lit où il fallait encore servir et le laisser faire. Elle avait été si soulagée que le bébé soit un garçon. Le lendemain matin, le docteur Lachalme, qui avait pratiqué les 3 césariennes et la connaissait bien, était entré dans la chambre. Il connaissait la mère aussi et avait parlé avec elle. Il avait fermé la porte derrière lui, avait regardé le bébé, avait dit que c'était un beau bébé, s'était assis sur la chaise et lui avait expliqué. La ligature des trompes. Sa mère avait raison. Elle ne pouvait pas continuer comme ça. 3 césariennes en 3 ans. À 26 ans, elle avait 3 enfants en bonne santé, 2 filles, 1 garçon. Elle serait tranquille. Il avait répété le mot « tranquille ». Jamais elle n'est tout à fait tranquille. Sauf le matin, entre le moment où il se lève pour aller traire à 5 heures et celui où elle doit, elle, vers 6h30 ou 7h ou plus tard, sortir du lit pour attaquer la journée. C'est une expression de sa mère qu'elle se répète pour se donner du courage, attaquer la journée. Elle ne se levait pas après la bonne. C'était impossible que la patronne ne soit pas levée avant la bonne, même si Annie ou Nicole savaient ce qu'il y avait à faire pour la soupe du matin, que les hommes mangent vers 7h30 et pour le petit déjeuner des enfants. La table de la cuisine est longue, les 3 hommes à un bout, les 3 enfants à l'autre, et elles, les 2 femmes qui vont et viennent des uns aux autres. Elle a toujours connu ça, c'est la vie des fermes. Mais chez eux, personne ne parle, sauf lui, et le vacher, le nouveau, Gérard, qui lui répond. Le jardin est beau. Elle jette un coup d'œil, c'est important. Même si la maison est isolée au bout du chemin, les gens voient le jardin en passant sur la route du haut. Les gens savent tout dans ces petits pays, ici comme à Fridières ou à Soulages. Il faut que le jardin soit bien tenu. Les haricots, les carottes, les petits pois, les patates, les choux, on mange déjà de la salade depuis 2 semaines. Félix sarcle et bêche, Nicole arrose. Les pivoines rouges qui viennent de Fridières ont été belles, pour la première fois. Elles ont mis des années à s'habituer. C'est plus haut ici. On est à 1000 mètres. L'hiver est plus long et la saison des jardins plus courte. Les pivoines sont déjà passées. Il faudra attendre les phlox début juillet au moment de commencer à faner. Il aurait fallu planter ou semer d'autres fleurs, mais elle a manqué de courage pour s'en occuper et maintenant c'est trop tard. Quand on fane, il devient comme fou. Il veut avoir fini plus vite que tout le monde. Il voudrait avoir fini avant d'avoir commencé. Il crie qu'il est seul pour tout faire, qu'elle est un boulet, un tas. C'est vrai, il a raison. Un tas, elle est devenue un tas. Un gros tas. Il cogne dedans, dans les jambes, dans le ventre. C'était Les Sources, le dernier roman de Marie-Hélène Lafon, paru chez Buchet-Chastel en 2023. Cette émission était comme toujours réalisée par Frédéric Guyon. Vous avez pu entendre en interlude musical une chanson de Jean-Louis Murat, « Amour n'est pas querelle », extraite de l'album « Toboggan ». Quant à moi, je vous souhaite un doux samedi soir et je vous dis à demain dimanche pour une nouvelle lecture à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.